Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant, Pivot. Au programme, le Québec à l'ère du vélo, la délinquance ordinaire et comment désamorcer la violence entre les jeunes à Montréal. Bonne écoute.
Le Québec à l'ère du vélo. Un texte de Ludovic Moquin-Baudry, paru le 15 avril 2023 dans le magazine Pivot. Pour une deuxième année consécutive, le beau temps précoce a amené la ville de Montréal à devancer de quelques jours la mise en service de son système de vélo en libre-service, Bixi. Mais c'est aussi à l'extérieur de la métropole que les jours s'annoncent beaux pour la pratique du vélo. Dans le sillage de l'ouverture de cette nouvelle saison, Bixi a également fait l'annonce d'une nouvelle phase d'amélioration de son service. Ainsi, les usagers et usagères auront droit à 36 stations, 1468 points d'ancrage et 414 vélos supplémentaires à Montréal et dans sa proche couronne. Et plus du quart des 10 000 vélos offerts seront à assistance électrique. Après une saison record en 2022, où le nombre de trajets a presque doublé par rapport à l'année précédente, on peut donc s'attendre à une nouvelle année de croissance. Le petit frère de Bixi du côté de la vieille capitale, à vélo, a fait l'annonce le même jour d'un agrandissement substantiel de son réseau. Les gens de Québec pourront profiter de 74 stations, notamment au campus de l'Université Laval. C'est près du double par rapport à 2022, pour cet opérateur offrant exclusivement des vélos à assistance électrique, VAE. Il faut aussi souligner les efforts récents de villes comme Longueuil et Laval pour le développement et la sécurisation de leur réseau cyclable. Il y a fort à parier que ces efforts créeront localement les conditions pour une adoption de plus en plus grande du transport à deux roues. Il s'opère en ce moment une transformation importante du rapport de la population à la pratique du vélo. Autrefois perçue comme une activité de loisir ou au mieux comme l'apanage de quelques personnes plus motivées, l'usage du vélo est devenu de plus en plus courant sur une base quotidienne, en particulier pour assurer certains trajets utilitaires. Autrement dit, ce n'est pas qu'un loisir. Le vélo est un moyen de transport à part entière. Pour tous les âges. Ceci est vrai pour des pans de plus en plus larges de la société et le développement des VAE y joue un rôle considérable. En allégeant l'effort demandé pour pédaler, les VAE rendent accessible ce mode de transport aux gens dont la condition physique est moins vigoureuse. C'est le cas des personnes âgées, qui sont de plus en plus nombreuses sur les pistes, mais également des personnes atteintes de maladies chroniques comme la fibrose kystique. Mais le facteur le plus important pour élargir la pratique du vélo demeure l'aménagement d'infrastructures protégées et bien conçues. Il y a 4 ans encore, jamais je n'aurais imaginé un seul instant voir des enfants d'âge scolaire rouler seuls ou avec leurs parents dans un lieu comme la rue Saint-Denis à Montréal. Or, c'est maintenant tous les jours qu'on en croise, grâce à la mise en place du réseau express vélo, rêve, sur cet axe. Et plus on rééquilibrera le partage de la voie publique avec de tels aménagements, plus on verra de gens les utiliser. Ce n'est pas qu'un loisir. Le vélo est un moyen de transport à part entière. À cet égard, le plan vélo 2023-2027 de la ville de Montréal est prometteur, avec ses ajouts substantiels aux rêves sur Jean Talon, Henri Bourassa, Lacordaire et aux pistes de plus petits gabarits. Mais peut-être devra-t-il être bonifié en cours de route afin de s'ajuster à la demande grandissante. Car si la tendance des dernières années se maintient, nous serons à l'étroit sur les pistes montréalaises bien avant 2027. Par ailleurs, il faut noter que de plus en plus de projets visent à rendre le vélo utile dans différents contextes. La popularisation des vélos cargo, par exemple, permet aux gens de déplacer une plus grande quantité d'objets, comme une épicerie ou des achats en quincaillerie, sans avoir à utiliser leur voiture. Également, certaines initiatives permettant la location de remorques, comme l'application Locomotion, peuvent avoir un impact significatif en nous évitant d'avoir à acheter du matériel supplémentaire pour de tels usages ponctuels. Et pour toutes les saisons. Toutefois, la grande nouvelle du début de la saison 2023 de Bixi a été le prolongement de la saison au-delà du 15 novembre pour permettre une utilisation hivernale de ce service. Depuis plusieurs années, des usagers, dont votre humble serviteur, le réclamaient pour essayer le vélo quatre saisons. Pour la première année, il s'agira d'un projet pilote, limité aux abords des grands axes cyclables déneigés, avec un nombre de stations restreint, 150, et une zone géographique plus petite. Mais gageons qu'on ne s'arrêtera pas là. Car une autre tendance a été identifiée dans les dernières années. La popularité grandissante du vélo d'hiver. Entre 2022 et 2023 seulement, on parle d'une augmentation de 27 % des déplacements comptabilisés. C'est gigantesque. Et chaque nouvelle année amène de nouveaux records. Ce qui est vrai l'été l'est également l'hiver. Si on met en place de bonnes conditions, les gens choisiront le vélo dans une proportion toujours plus grande. Comme le rappelait le président de Vélo Québec, Jean-François Réau, on ne compte qu'une dizaine de jours par hiver où la circulation est plus difficile en raison de la neige, ce qui est également vrai pour les voitures et les piétons d'ailleurs. Il n'est donc pas d'une grande pertinence de considérer l'hiver comme une objection valide à la pratique du vélo. D'ailleurs, la ville de Longueuil a également décidé d'encourager cette pratique l'hiver dernier en commençant à déneiger une partie de son réseau cyclable, soit environ 60 km. Ainsi, ce qui est vrai l'été, l'est également l'hiver. Si on met en place de bonnes conditions, les gens choisiront le vélo dans une proportion toujours plus grande. Vélo stationnaire à l'Assemblée nationale. Malgré tous ces signaux de changement, il demeure un endroit où le statu quo semble perdurer. L'Assemblée nationale. Dans le dernier budget, aucune mesure significative pour le vélo n'a été annoncée. Or, on est en droit de poser quelques questions. Par exemple, pourquoi le gouvernement du Québec subventionne-t-il l'achat de voitures électriques, mais pas celui de VAE? Pourquoi n'investit-il pas pour le développement du réseau interurbain et régional pour stimuler le vélotourisme? Pourquoi n'inclut-il pas des exigences de développement du réseau cyclable dans l'aménagement du territoire? Le peuple québécois voit de plus en plus le vélo comme faisant partie de son avenir. Il serait temps qu'un gouvernement se réclamant de l'avenir en fasse autant. C'était « Le Québec à l'ère du vélo », un texte de Ludovic Moquin-Baudry, paru le 15 avril 2023 dans le magazine Pivot. La délinquance ordinaire. Un texte de Ludovic Moquin-Baudry, paru le 6 avril 2023 dans le magazine Pivot. Le mardi, 4 avril 2023, le service de police de la ville de Montréal, SPVM, a dressé le bilan de son opération intersection menée dans le secteur du pont Jacques-Cartier du 27 au 31 mars. Ainsi, durant cette période, près de 800 contraventions ont été données à des conducteurs pour différentes infractions allant du blocage d'intersection à l'utilisation du cellulaire au volant, en passant par le grillage de feu rouge et le changement de voie interdit. Rappelons d'abord qu'il s'agissait d'une opération spéciale, largement médiatisée et qui impliquait un nombre accru d'agents et d'agentes par rapport aux effectifs réguliers. Et malgré cela, dans un secteur relativement restreint, les forces policières ont attrapé plus d'une centaine d'automobilistes par jour. Imaginons maintenant comment les choses se passent quand le surmoi policier ne se manifeste pas de manière aussi évidente dans le quotidien des automobilistes. Quiconque emprunte les rues de Montréal est témoin plusieurs fois par jour de ce genre de comportement interdit par le Code de la sécurité routière. Des comportements pouvant entraîner des accidents parfois mortels, mais qui ont été si longtemps tolérés ou si peu réprimandés, qu'ils en sont venus à être considérés comme normaux. Une délinquance ordinaire qu'on ne voit plus. En entrevue à la presse, la commandante Christina Balog, du poste de quartier 22, exprimait sa surprise devant la quantité de contraventions remises et estimait que ce genre d'opération pourrait, à long terme, avoir un impact structurant sur les comportements des automobilistes. Très bien. Pourquoi ne pas répéter une telle opération chaque semaine? Pourquoi ne pas en faire la norme plutôt que l'exception? La même journée, le ministère de la Justice a dévoilé ses chiffres au sujet des excès de vitesse captés par des radars photomobiles placés à proximité d'écoles. Ces dernières années, ce sont plus de 50 000 infractions qui ont été constatées par ces seuls appareils, avec une tendance haussière. En 2022, le nombre a doublé par rapport à 2021. Avec raison, la directrice de Piéton Québec, Sandrine Cabana-Degani, s'est inquiétée d'une certaine normalisation des excès de vitesse en zone scolaire que révèlent ces chiffres. Rappelons qu'ils proviennent de radars mobiles qui ne sont pas présents en permanence et qui, surtout, ne couvrent qu'une infime minorité des zones scolaires du Québec. Dans le même article, un brigadier souligne d'ailleurs que les automobilistes ralentissent davantage les semaines où les radars sont présents et reprennent leurs comportements dangereux et illégaux lorsque ces radars sont déplacés ailleurs. Un autre exemple de délinquance ordinaire qui se trouve atténué lorsque la menace de l'amende se fait sentir. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra augmenter la surveillance et la répression des comportements dangereux tant et aussi longtemps que la culture automobiliste ne se sera pas conformée au strict minimum prescrit par la loi. Car le risque de nuire à l'intégrité physique, voire à la vie, des autres usagers et usagères de la voie publique ne semble pas encore être un argument suffisant pour changer les comportements. Changement de position. Il est bon de voir l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal se joindre au mouvement réclamant davantage de protection pour les piétons et les piétonnes autour des écoles. Jusqu'à tout récemment, le parti de l'ex-maire, Denis Coderre, s'était plutôt fait le porte-voix des doléances automobilistes. Mais ce mardi 4 avril, la leader adjointe, Alba Zuniga-Ramos, a réclamé des mesures fortes afin de changer ces comportements illégaux qui mettent en danger la sécurité des plus vulnérables. Notons que parmi les mesures les plus susceptibles de protéger la sécurité des non-automobilistes, on compte les dos d'âne, les feux prioritaires, les saillies de trottoirs, les chicanes et les pistes cyclables protégées. Verra-t-on ainsi un changement dans le discours de ce parti qui s'est le plus souvent opposé à des aménagements de l'une ou l'autre de ces catégories? Et cette nouvelle position vaudra-t-elle également pour les secteurs hors des zones scolaires? Avec l'arrivée du printemps, permettons-nous un peu d'optimisme? C'était « La délinquance ordinaire », un texte de Ludovic Moquin-Baudry, paru le 11 avril 2023 dans le magazine Pivot. Thank you. Comment désamorcer la violence entre les jeunes à Montréal? Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 6 avril 2023, dans le magazine Pivot. Selon des intervenants, la violence entre les groupes de jeunes augmentera cet été si des mesures ne sont pas prises pour enrayer durablement ces causes profondes. Alors que la violence armée cause un sentiment d'insécurité généralisé chez les jeunes dans certains quartiers de la métropole, des intervenants signalent qu'il est impératif de miser sur la prévention afin de désescalader les tensions entre les groupes. Cela veut dire voir cet enjeu comme un problème de santé publique plutôt que de sécurité. La récurrence de la violence armée entre des groupes à Montréal inquiète les jeunes. Au Salon de la jeunesse noire, tenu la semaine dernière, certains et certaines ont pu s'exprimer sur cet enjeu qui enclenche un cercle vicieux d'insécurité et une ségrégation entre les quartiers. Ils et elles ont également pu interroger le directeur du SPVM, Fadi Daguerre, qui participait à un atelier sur le racisme systémique. Depuis la pandémie, il y a une violence sans fin à Montréal. Montréal, c'est terrible actuellement, c'est chaud, a lancé une jeune participante en le questionnant sur ce qu'il pouvait faire pour désamorcer le cycle de violence. Moi, j'ai vécu, j'ai grandi toute ma vie à Montréal. J'ai pas envie d'avoir tout le temps peur. La question est particulièrement importante à l'heure où des intervenants qui travaillent auprès des jeunes en difficulté prévoit que la violence continuera de prendre de l'ampleur au courant de l'été. Dans sa réponse, M. Daguerre a signalé qu'il annoncera le 4 mai 2023 un projet de formation pour les nouveaux policiers à l'image de celui qu'il avait mis sur pied à Longueuil lorsqu'il était à la tête du service de police locale. L'initiative viserait à ce que les nouveaux et nouvelles agents et agentes du SPVM vivent temporairement parmi la communauté dans 9 arrondissements de la ville, et ce, dès l'automne prochain. Ce que je veux, c'est que les policiers et policières qui vont rentrer au SPVM saisissent ce qui a amené les particularités des communautés, de certaines familles, des personnes, de certaines problématiques de santé mentale, a-t-il plus tard expliqué en entrevue exclusive avec Pivot. Dans l'auditoire, les jeunes sont demeurés sceptiques. Le programme que vous avez lancé à Longueuil, il est magnifique. Par contre, il n'est pas adapté à Montréal, a avancé une participante. Même moi, c'est difficile. Je suis d'origine congolaise. Si on dit à mes parents « accepte un policier à la maison », ce ne sera pas facile, parce qu'il y a cette relation de peur, a-t-elle expliqué en soulignant le manque de confiance de la population vis-à-vis de la police. Parallèlement à cette initiative, le SPVM prévoit aussi augmenter ses opérations de répression, explique M. Daguerre en entrevue. Si, pour les autorités, cette intervention semble essentielle, des intervenants préviennent cependant qu'il ne s'agit pas d'une solution efficace pour enrayer complètement les tensions entre les jeunes sur le long terme. Il faut changer de paradigme, lance René-André Brisebois, intervenant et chercheur à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Il faut passer d'une vision de sécurité publique à une vision de santé publique. Pour le chercheur, une approche de sécurité publique préconise des interventions comme des arrestations en réponse à des délits commis. C'est un peu tardif comme intervention, et ce n'est pas nécessairement axé sur l'intégration sociale des personnes délinquantes. D'un autre côté, une stratégie de santé publique permet de travailler en amont pour prévenir les crimes avant qu'ils ne soient commis. C'est aussi ainsi qu'on assure une efficacité à plus long terme, soutient M. Brisebois. Cela comprend des interventions de prévention pour l'ensemble de la population, comme de la sensibilisation dans les écoles, ainsi qu'un accompagnement plus ciblé et une écoute auprès des jeunes à risque ou délinquants et délinquantes. Il faut changer de paradigme. Il faut passer d'une vision de sécurité publique à une vision de santé publique, affirme René-André Brisebois. C'est précisément ce que fait Bert Pierre dans le cadre de son travail d'intervenant avec l'équipe RDP. L'organisme communautaire œuvre directement auprès des jeunes, notamment ceux et celles qui vivent des difficultés en lien avec la violence à Rivière-des-Prairies, afin de tempérer les tensions entre les groupes. Vous écoutez « Comment désamorcer la violence entre les jeunes à Montréal », un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 6 avril 2023 dans le magazine Pivot. Lui et ses collègues se rendent également dans les salles de classe des écoles secondaires de l'arrondissement pour sensibiliser les élèves au danger de rejoindre certains groupes. Mais s'il n'en tenait qu'à lui, M. Pierre sensibiliserait les jeunes dès l'école primaire. C'est eux qu'on va atteindre, parce qu'il faut couper le tuyau qui amène les jeunes à la rue, explique-t-il. Plus on les prend jeunes, plus ils sont conscientisés jeunes, moins ils vont se retrouver à la rue plus tard. Pour M. Pierre et M. Brisebois, la prévention doit aussi inévitablement passer par les familles, qui sont parfois elles-mêmes aux prises avec des enjeux financiers ou d'inclusion sociale. On a des familles qui vivent beaucoup de difficultés, qui ont peur, qui ne connaissent pas les services qui existent et qui ont peur de demander de l'aide à cause des conséquences que ça peut avoir, tant pour eux que pour leurs enfants, estime M. Brisebois. Il explique par exemple que certains parents peuvent éviter de signaler un problème par crainte de se faire enlever leurs enfants par la DPJ. Il faut comprendre les contextes de vie qui affligent les familles et qui amènent des vulnérabilités, rappelle-t-il. Selon le chercheur, il est impératif de répondre aux besoins des familles en amont et non pas attendre que les problématiques surviennent et finalement offrir une intervention légale ou tardive aux jeunes. M. Brisebois estime par ailleurs que les interventions, voire la judiciarisation, surviennent trop tardivement pour certains et certaines jeunes, alors qu'ils et elles sont à l'aube de leurs 18 ans. Or, c'est à ce moment qu'ils et elles deviennent susceptibles d'obtenir un dossier criminel. On sait qu'il y a des jeunes qui passent à travers les mailles de nos systèmes, malheureusement, et qui, par exemple, arrivent très tardivement dans le système de justice au niveau juvénile avec un délit très grave, explique-t-il. Ce n'est pas normal. Maintenant, les groupes mandatent des jeunes de 12 ans, de 14 ans, pour faire des crimes dans la rue. C'est ça qui est en train de se passer, nous dit Bert Pierre. Les intervenants et intervenantes responsables de la réinsertion sociale des jeunes délinquants et délinquantes ont donc trop peu de temps pour agir et éviter qu'une récidive survienne à l'âge adulte. Maintenant, les groupes mandatent des jeunes de 12 ans, de 14 ans, pour faire des crimes dans la rue. C'est ça qui est en train de se passer, s'inquiète M. Pierre. Si un jeune commence à commettre des crimes à ce moment-là, entre 12 et 21 ans, il a une carrière de fait. Cette voie devient attrayante pour des jeunes qui ne sentent pas qu'ils et elles peuvent subvenir à leurs besoins en travaillant, notamment en raison de la discrimination et du racisme systémique qu'ils et elles peuvent vivre en cherchant un emploi. C'est une question complexe, pense le chef du SPVM, Fadi Daguerre. Il faut mobiliser un village pour s'occuper des jeunes. Et dans ce village, le réseau communautaire reçoit trop peu de soutien financier, admet-il. Le secteur communautaire à Montréal a reçu des enveloppes de 23 millions du gouvernement fédéral, 7 millions du municipal et 375 000 $ en provenance du provincial afin de lutter contre la violence auprès des jeunes. Le SPVM, quant à lui, a obtenu 787 millions en 2023, soit le budget le plus élevé de son histoire. Le milieu communautaire a besoin d'encore plus d'argent, surtout de la pérennisation du budget, reconnaît le directeur du SPVM. On devrait tous être à l'écoute. Qu'est-ce que le milieu communautaire a besoin et comment on peut pérenniser les enveloppes budgétaires? Comment faire en sorte qu'il n'ait pas à se défendre chaque année pour avoir une part de la tarte? Cette question n'est pas nouvelle dans le milieu communautaire, qui demande depuis plusieurs années un meilleur financement à long terme afin de mobiliser plus d'intervenants et d'intervenantes dont les postes seraient garantis pendant plusieurs années. Le milieu communautaire a besoin d'encore plus d'argent, surtout de la pérennisation du budget, dit Fadi Daguerre. M. Pierre signale également un manque d'espace sécuritaire et accessible aux jeunes en difficulté. Ces lieux doivent se multiplier pour rejoindre les jeunes qui hésitent à se déplacer dans différents quartiers par peur de représailles de la part de groupes ennemis. Pour accéder aux jeunes, l'intervenant doit souvent travailler directement dans la rue, malgré le danger auquel il s'expose. Pour répondre à cet enjeu, l'équipe RDP tente actuellement d'installer des locaux pour lesquels les permis nécessaires ont mis plus d'un an à être délivrés par la ville. Pendant ce temps-là, moi, j'ai des jeunes qui meurent dehors. Pendant ce temps-là, je n'ai pas de place sécuritaire pour faire mes interventions. C'était « Comment désamorcer la violence entre les jeunes à Montréal », un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 6 avril 2023 dans le magazine Pivot.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.